Radio Campus Bruxelles 92.1.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Nous sommes mercredi, il est 19h et c'est l'heure de retrouver La Conspiration des Planches, votre magazine critique des arts de la scène à Bruxelles. Avec moi en studio, Elisabeth. Bonsoir Elisabeth.
Bonjour, bonsoir.
Et s'il fallait donner un thème à cette semaine, ce sera peut-être celui des retrouvailles, des auteurs qu'on connaît, des histoires que l'on connaît, des reprises, des bonnes reprises. C'est un peu le programme de cette émission, parce que voilà, le théâtre s'apprécie aussi sur la durée. On est content de faire des retrouvailles.
Bien sûr, et puis voilà, c'est aussi une réalité économique qu'il faut saluer. Quand un spectacle est bon, on le reprend et on l'amortit.
Voilà. Et on va commencer. Alors, c'est un nouveau spectacle qu'on va...
Oui,
on va même prendre l'avance, en fait. On n'a jamais pris autant l'avance, je crois, dans cette émission. Mais c'est un spectacle qui vient d'être joué et qui sera de retour en mars. Et à mon avis, il faudra réserver rapidement ses places. Elisabeth, c'est Cabot mordu. Et là, c'est quand même les retrouvailles de Jean-Marie Piem avec Philippe Sirelet.
Voilà, c'est un peu quelque chose, on ne peut pas dire une boucle qui se boucle, mais c'est un tandem qui nous a déjà donné plusieurs spectacles, avec chaque fois surtout des dialogues, des pièces dialoguées. On a vu récemment, j'ai oublié le
mais il y avait déjà un chien dans l'histoire.
Il y avait déjà un chien dans l'histoire. Le chien, c'était un dialogue d'un chien avec son maître.
Sur la nécessité de mordre ses amis.
Voilà, absolument. Donc, c'était déjà tout un programme, mais c'était surtout une joute oratoire. C'est vraiment le principe de base qui est réuni, enfin qui est imprégné dans l'écriture de Jean-Marie Piem. Alors Jean-Marie Piem, signalons au passage que c'est quand même un théoricien du spectacle. C'est quelqu'un qui écrit depuis vraiment quelques décennies, on va dire. Et il a trouvé cette complicité avec Philippe Sirelet, qui lui est metteur en scène, fameux directeur d'acteurs, qui a un pied en Belgique, notamment au Théâtre des Martyrs, et un pied en Suisse où il enseigne également.
Il termine son mandat de directeur au Théâtre des Martyrs.
Voilà, il termine avec une mise en scène, un spectacle qui a été créé, si je ne m'abuse, à Spa, qui était déjà là fort remarqué. Et nous, on a pu le voir ces derniers temps et on pourra le revoir, c'est vraiment ça qui est important. Donc les dates, c'est en mars au Théâtre des Martyrs.
Du 10 au 21 mars.
Voilà, absolument. Et pourquoi est-ce qu'il faut réserver? Parce que c'est dans la petite salle, donc la jauge sera limitée quoi qu'il arrive. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est un spectacle qui, en tout cas, moi, m'a fort frappé? Parce qu'on y trouve, c'est vrai qu'on a le tandem Piem Sirelet, mais on a aussi un fameux tandem sur scène avec des comédiens qu'on connaît un peu moins.
Fabrice Hadde, on l'a déjà vu, et surtout, lui, on va dire Fabrice Hadde est un local, mais Franck Arnaudon
vient de Suisse. Comme c'était exactement le cas dans Dialogue d'un chien avec son maître, où on avait une magnifique prestation des deux aussi. Alors là, de quoi est-ce que ça parle? Ça parle de théâtre.
Ah bon?
Quelle une idée, quelle est bonne. Quand on arrive, la première chose qu'on voit quand on s'assied dans la petite salle des martyrs, c'est un magnifique rideau rouge flamboyant. Donc on a tout de suite quelque chose qui est connoté comme ça dans la mise en scène de Sirelet, qui est à la fois très porté sur la direction d'acteur, mais qui est très attentive au visuel aussi, et très sobre. Et puis quand le rideau s'ouvre, on découvre quoi? Des planches. Mais vraiment des planches, c'est la première chose qu'on voit. Et puis sur les planches, quelques accessoires, mais vraiment très simples, deux ou trois chaises et une sorte d'armoire qui est un sas. Entre un comédien costumé avec une fraise, donc il a joué, je ne sais plus.
Un classique, on va dire.
Un vrai classique, que ce soit, je ne sais plus lequel c'était, mais peu importe. Il ouvre la porte de l'armoire, qui est le sas vers l'extérieur, et il s'adresse à quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui en réalité est son frère. Particularité des deux frères, ils sont comédiens tous les deux. Ils sont comédiens, mais à des extrêmes. Il y en a un qui est du tenant classique, qui raconte à son frère comment la représentation s'est bien passée. Et le frère lui dit, oui, mais enfin, bon, avec ces trucs, moi, c'est la nouveauté, etc. Donc, on a deux conceptions du théâtre comme ça qui s'affrontent. Et toute la pièce est construite autour de cette thématique du théâtre. Elle est construite à travers des dialogues qui sont évidemment ciselés, découpés au couteau, mais qui sont surtout magnifiquement interprétés. Mmh. Et subtilement, d'un tableau à l'autre, le comédien classique qui dominait un peu son frère, qui était un peu un raté, qui n'avait pas de boulot, etc., ben les rapports s'inversent, mais c'est très subtil, c'est chaque fois une petite gradation comme ça. Et en fait, toutes les scènes sont construites autour de cette dispute entre guillemets qui monte, et puis une réconciliation généralement devant le portrait de leur mère. Donc voilà, mais c'est presque des scènes, on dirait, certaines sont des scènes d'anthologie parce qu'elles sont aussi un peu drôles. Mais drôles, on se rend compte au fur et à mesure que le spectacle avance que c'est pas réellement des personnages, c'est un peu des clowns. Il y a des allusions à pas mal d'auteurs de théâtre, à Beckett notamment. Est-ce qu'on ne serait pas un peu dans du théâtre de l'absurde ou des choses comme ça?
Un peu déjà comme de dialogue d'un chien avec son maître, finalement.
Oui, mais là, c'était plus concret. Et surtout, la scénographie était plus grande, la salle était plus grande. Et là, on a l'intimité en plus. Parce que, enfin, moi, j'étais placée assez devant, mais je pense que si on est un peu derrière, on a un rapport très, très intime, parce que comme le plateau est coupé, finalement, alors il faut bien dire que le rouge du rideau se retrouve sur le mur, etc. Et puis, en parlant théâtre, ben, il y a Shakespeare qui a dit « The world is a stage ». Ben, on a l'impression un peu que Jean-Marie Piem a pris ça... pour son compte, et il nous parle de choses qui nous concernent un peu aussi, comme la politique ou des choses comme ça. Et toute une digression et des passages vraiment intéressants, mais dans le verbe, évidemment, sur qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, est-ce que le vrai du faux ou le faux du vrai, etc. Et on est parti comme ça dans quelque chose. Alors ça pourrait tomber complètement à plat si ce n'était pas magnifiquement interprété. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment ce qui domine dans ce spectacle. Et en fait, je pense que ce que nous propose le tandem Cyrulle, Jean-Marie Piem et ce qui a été véritablement pris à bras-le-corps par les deux comédiens, c'est cette idée de faire une expérience du théâtre. Parce que le théâtre, au début, on en voit ce qu'on ne voit pas souvent, les comédiens qui rentrent chez eux, qui racontent. Et puis après, comme à un moment donné, on sent qu'ils deviennent un peu fauchés tous les deux. Ils se lancent dans des entreprises de plus en plus brôleuses, comme il en existe aussi dans le théâtre. Hein. Mais là, ils vont répéter devant nous. Donc on a tous les aspects du théâtre qui sont là, sauf la représentation, évidemment. Voilà. Alors, il n'en reste pas moins vrai que c'est quand même Jean-Marie Piem qui écrit le texte et que c'est un texte qui est à la fois verbal, totalement... Ça carbure quand même pas mal. Oui. Hein. Mmh. Il faut quand même suivre, mais pendant la représentation, on suit totalement parce que il y a l'interprétation qui vient nous donner.
Il y a la situation peut-être qui nous accroche.
Oui, bien sûr. C'est ça. Et puis il y a des surprises visuelles. Il se passe quand même des choses. Il y a quand même des accessoires etc. Mais quand on en ressort, on se dit, mais c'était quoi ce truc? ça parlait de quoi? Et c'est vrai que ça peut dérouter certains, évidemment. Et donc, oui, c'est un théâtre qui est, entre guillemets, assez intello. Mais quand il est abordé avec une telle maestria par les comédiens, pourquoi pas s'offrir une heure de pur régal? Je dirais que c'est vraiment pour les comédiens qu'il faut y aller, pour donc... avoir une précision dans la mise en scène aussi. Et voilà, quoi. Prenez peut-être rendez-vous déjà.
Oui, rongez votre frein, hein, puisque Cabot Mordu, ce n'est pas pour le moment. Ça va revenir donc, voilà. Au mois de mars 2026, à partir du 10 mars, toujours au Théâtre des Martyrs, du 10 au 21 mars 2026. Et ça se réservera sur théâtre-martyr.be pour toutes les dates, toutes les informations. Alors, c'est marrant parce que je voyais une phrase, une ligne de dialogue mise en exergue sur le site. « Je suis un toréador, tu le sais bien, j'aime la corne du taureau quand elle me frôle, voilà. » Toréador, c'était aussi un duo.
C'était aussi un duo de
signé Jean-Marie Piem.
Voilà, et on peut se demander pourquoi Cabot mordu.
Bah, peut-être je parce crois qu'il... que c'est un hommage à soi-même, peut-être, et aussi à une collaboration.
Ou peut-être tout simplement qu'on cabotine un peu.
Oui.
Mais... voilà, il y a de ces
mais
idées.
Avec mais avec talent, bon... comme tu le disais. Donc,
oui, vraiment, voilà. Surtout ça.
Voilà pour Cabot mordu. Alors justement, on va rester au martyr. Là, c'est pour une reprise qui arrive à partir de ce 10 octobre.
Donc vendredi.
Pendant 7 jours, ce sera Fils de bâtard d'Emmanuel de Candido que l'on pourra revoir. Donc au martyr, dans la salle Henri Rond, c'est la grande salle.
Ouais.
Alors là, on est dans un presque seul en scène, puisque si Emmanuel de Candido est l'interprète, le narrateur de ce spectacle, il est accompagné sur scène d'une musicienne bidouilleuse de son, si j'ai envie de dire, et de quelques surprises qui vont se passer pendant ce spectacle. C'est l'histoire d'une quête d'Emmanuel de Candido qui part sur les traces de son père, un drôle de personnage, une sorte d'aventurier qui va en Congo, en Antarctique, en Libye, bref, qui n'a pas été très souvent auprès de son fils.
Non.
Et donc, c'est ça qui fascine un peu le fils et dit, mais qui était mon père, avec qui les liens étaient, voilà. Ou pas. Mais voilà. Mais finalement, ce qui va surtout conduire Emmanuel de Candido, c'est plutôt à s'interroger à celle qui a toujours été là. C'est sa
maman.
Mère.
Voilà. Ben, oui.
Petite femme courageuse, travaillant dans les soins de santé, infirmière, et qui a été l'héroïne, finalement, comme il dit, de l'ombre. Plus que ce héros flamboyant qui était son père. Et de cette enquête va émerger toute cette tendresse aussi, le lien père-fils, le lien mère-fils, et comment ça s'est transmis, parce que ce n'est pas vraiment original, je vais dire, comme thème, mais c'est la manière dont c'est mené, dans un spectacle seul en scène qui va allier le documentaire, la narration, le slam également. On va passer par plein de choses différentes dans cette épopée familiale, finalement.
Ouais.
Et il va y avoir vraiment quelque chose... Emmanuel de Candido a beaucoup travaillé, en plus de son texte, la question du mouvement dans ce spectacle, puisqu'il y a l'image d'être sur un fil, le fil de la vie, ou comme quand on marche sur les lignes tracées sur le sol dans la cour de récré le matin, où on est un peu le funambule, funambule sur le fil de sa vie.
Est-ce qu'on arrive à se projeter dans ce récit, parce qu'on n'a pas eu tous un père fabuleux qui courait le monde?
Mais non, puisque la leçon de l'histoire, c'est que finalement, il ne faut pas aller bien loin pour trouver nos héros, pardon.
D'accord.
Et de dire finalement, ce n'est pas forcément le geste le plus flamboyant qui a compté le plus. Voilà, et que l'amour, il se situe parfois dans les endroits
qu'on... C'est un message universel.
C'est vraiment un superbe spectacle.
Est-ce que je me trompe ou ce spectacle était à Avignon?
Il est allé à Avignon et il est aussi dans les coups de cœur de la saison 2023-2024 des Prix Matterlinck de la critique, dont on parlera tout à l'heure. Spectacle coup de cœur, parce qu'il n'y a pas eu de prix cette saison-là, mais le jury a dressé une liste de 10 spectacles. Voilà.
Donc, on prend son téléphone, on appelle les martyrs, quoi.
Oui, on va aussi sur théâtre-martyr.be pour toutes les informations.
Aussi.
Ça marche aussi, c'est Fils de bâtard, à découvrir du 10 au 17 octobre, donc au Théâtre des Martyrs, vous l'aurez compris. On fait une petite pause musicale et on se retrouve après un jeune rappeur qui va arriver, qui s'appelle simplement Jean.
D'accord.
Et qui va arriver au Botanique tout prochainement.
Eh bien, écoutons.
Je te déconseille de parier sur moi. Tu prends le temps de me demander qu'est-ce que tu veux vraiment. Si je te réponds vraiment, ça me paraît sournois. Je réfléchis les idées qui apparaissent sur moi. J'attends même si je sais que t'écouter c'est lourd. C'est jamais fini mais c'est jamais assez long. façon j'ai craqué, donc réouvre le cello. Alcool ou drogue, et si c'est pas l'un c'est l'autre. Ne demande pas mon avis, souvent ce qu'on pense c'est l'opposé de ce qu'on affirme. Arrête de faire comme si tout allait bien, t'as les yeux dans la fumée, le nez dans la farine. Pourquoi tu me poses des questions qui ont des réponses que tu regrettes? T'es allé trop vite et les pneus de la voiture crèment, mais tu t'en veux même pas, t'as déjà oublié la veille. Ah, oh, arrête de faire comme si tout fait tomber par magie dans tes mains. Pour me mettre en question, j'attendrai demain. Me regarde pas comme ça, j'ai presque peur. Ah, oh, hey, salut, ça va? Tu m'as répondu, je suis pas sûr de savoir. C'est bon, ça y est, maintenant stop. Les esprits tombent, les vêtements stop. Ah, hey, je sais que c'est ça. Ça me plaît, mais ça peut s'annuler en sept messages. Même si j'ai bien qu'au fond, c'est ça le blême. Faut mieux pas regarder ça de près. J'ai mal dessiné chaque trait. Arrête de faire comme si tout fait tomber par magie dans tes mains. Pour me mettre en question, j'attends.
Arrête de faire comme si ces gens que l'on écoutait à l'instant avec son mélange de pop et de rap dans La Conspiration des Planches et à l'instant sur Radio Campus. Et ce sera ce jeudi qu'on pourra le voir au Botanique, jeudi 9 octobre, www.botanique.be pour toutes les infos. On est donc de retour dans La Conspiration des Planches. Semaine de retrouvailles, comme je le disais en première partie d'émission. Et on va prendre maintenant la direction du Théâtre de Poche, où l'on peut voir encore pendant quelques jours,
jusqu'à samedi,
le spectacle Pueblo, voilà. Troisième spectacle d'association entre David Murgia et Ascanio Celestini, l'automne italien, très, très friand. Enfin, c'est vraiment des figures majeures de l'arte povera et du discours fable un petit peu,
oui,
comme ça.
Oui, il y a quelque chose, enfin surtout dans Pueblo, en tout cas, toi, tu as vu Laika, parce qu'il y avait un focus sur les deux aux poches. Moi, j'ai loupé malheureusement Laika, mais Pueblo est vraiment aussi un spectacle de conteur presque.
Oui, c'est ça. C'était Dario Fo, c'est l'héritage de Dario Fo.
Voilà, et de raconteur, mais ce sont aussi des techniques qui s'utilisent ailleurs dans le conte, où on enchaîne les histoires, en fait, comme des perles sur un collier, en fait. On passe de l'une à l'autre.
Alors, comme tu le disais, Elisabeth, c'est dans une trilogie. On connaît Laika, qui est passée il y a quelques semaines aux poches. Pueblo. Oui. Et va arriver Rumba, qui va se jouer au mois de novembre au Théâtre National. Mais Pueblo, si tu pouvais nous en dire quelques mots.
On parlait tantôt de spectacle verbal, mais là, c'en est un aussi, parce que la caractéristique de David Murgia, je ne sais pas comment il était dans
Laika. C'est un presque seul, en scène. Hein, voilà.
C'est aussi un presque seul en scène, mais c'est la logorée, en fait. Mmh. Il arrive, il est seul en scène, il est juste en costume, bah, comme s'il descendait du tram, hein, et puis il se met à parler, mais avec un débit qui accélère comme ça, et on comprend tous les mots, et on comprend tout ce qu'il nous dit. Il utilise des techniques qui m'ont fait penser au conte, parce qu'il y a une répétition des choses, il y a des motifs. Il nous place les choses aussi dans une situation universelle. Au départ, il pleut, il y a les Indiens qui tapaient avec leurs pieds, et puis il se passe quelque chose. Et puis, de temps en temps, il interrompt cette logorée comme ça, qui est vraiment un débit extraordinaire dans sa clarté aussi, pour s'adresser à son musicien qui est live. Au début, on ne comprend pas très bien, il est un peu cassé, mais la musique est omniprésente aussi. Donc, c'est presque un duo quand même avec la musique. Et entre la voix de Murgia et la musique, ben, y a une harmonie qui se crée. Les histoires, ben, de qui parle-t-on ? Ben, on parle des invisibles, de ces gens qui, dans la société, n'ont aucune importance, qu'on ne voit même pas. Et tout le spectacle est axé sur le fait qu'à travers la fenêtre, on voit ben, peut-être une vieille grand-mère et peut-être que sa fille. Et sa fille, ben, peut-être qu'elle travaille au supermarché. Et puis on est parti, on prend connaissance avec la fille qui travaille à la caisse au supermarché, encore une invisible. Il y a des moments aussi qui sont presque des parenthèses dans ce flux verbal ininterrompu. Et ces parenthèses peuvent être, et on sent que c'est une volonté de mise en scène comique, en fait. Donc on a des moments qui sont tout à fait drôles, et puis il y a des moments qui sont presque poétisants dans un univers qui n'est que glauque. Parce qu'on passe de la situation de la personne un peu âgée qui mange de la soupe lyophilisée, et puis de sa fille qui travaille comme une machine au supermarché, à la personne qui est encore plus invisible que la caissière du supermarché, qui est la clocharde qui ne mendie pas d'argent, mais qui vit dans un baraquement sur le parking du supermarché. Donc on a ce monde-là qui nous est donné, qui nous est exprimé.
Qui est dessiné hein, par les mots. Hein.
Absolument. Et c'est vrai qu'autant il n'y a pas d'effet, entre guillemets, de mise en scène, il y a le musicien qui vient soutenir à la fois au clavier ou à l'accordéon, qui vient soutenir la logorée comme ça de Murgia. Et les images nous parviennent, en fait, avec zéro effet. On voit ces personnes pour la première fois. On imagine aussi qu'il y a quand même une critique sociale qui se dessine là derrière. C'est vraiment les laisser pour compte du capitalisme. Et la personne à laquelle on s'adresse le plus, on y chemine de plus en plus, c'est justement cette clocharde qui vit là et qui n'a pas besoin de mendier parce qu'en fait, elle mange les invendus du supermarché. Mmh. Donc ça, c'est un petit peu le pitch en français simple.
C'est marrant parce que Pueblo, ça veut dire le peuple
ben oui,
et le village.
Tout à fait.
Et donc c'est vraiment...
On a ce petit village-là et puis le récit avance inexorablement jusqu'à la mort de cette... elle s'appelle Dominique. Et voilà. Et alors, on sent que c'est un spectacle qui est fait pour ici parce qu'il y a des allusions quand même à la Belgique, etc., même si on a quand même toute l'Italie sur la scène.
Mais c'est une formidable collaboration entre les deux.
Absolument.
Ça avait commencé avec Discours à la Nation, oui. Qui là était un spectacle interprété au départ en italien par Ascanio Celestini. Mm-hmm. Mais Laika, Pueblo et le prochain Rumba, c'est vraiment une collaboration d'écriture entre David Murgia et...
Et le musicien aussi, parce que...
Oui, Philippe Orivel, oui.
Voilà, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, parce que je pense qu'il participe pleinement à ça.
Tout
et il y a
fait.
Vraiment ces deux couches qui se trament. Et donc, ça en fait un spectacle. Les applaudissements étaient plus que nourris, je dirais vraiment des minutes, etc.
C'est un texte tellement ancré par David Murgia qui est là et qui le lâche avec une virtuosité.
Tout à fait. Ça. Et puis, en plus, c'est un truc qui finalement coule de source.
Oui.
Et ça, c'est chouette à voir. Quoi.
Là où Discours à la Nation était beaucoup plus métaphorique parfois dans sa critique des pouvoirs, en fait, ici, on est vraiment dans un récit qui est là sur... décrivant aussi un monde, oui. Et décrivant dans le genre, dessinant le monde qu'on a sous nos yeux et qu'on ne voit pas.
En utilisant les moyens plutôt de la poésie que quelque chose de cérébralisant ou même de... Voilà. Mais à suivre, en tout cas, s'il y a une reprise, on ne manquera pas de vous la rappeler, parce qu'il ne nous reste quand même que 2-3 jours.
Oui, Pueblo, c'est à voir donc, jusqu'à ce samedi 11 octobre au Théâtre de Poche. C'est le deuxième volet donc, de ce qu'ils ont appelé la trilogie de la périphérie et la périphérie de notre humanité, finalement aussi, ce qu'on met en périphérie. Et on pourra voir Rumba, le troisième épisode, ce sera au Théâtre National en collaboration avec Le Poche. Ce sera fin novembre, 28-29 novembre, et du 2 au 3 décembre au Théâtre National dans la Grande Salle. Grande Salle pour... spectacle sobre et avec peu de moyens.
Oui, mais au Poche, ça passe voilà. Tout à fait bien dans une grande salle aussi.
Encore quelques minutes donc pour vous parler peut-être un petit peu du palmarès des prix Maeterlinck de la critique qui sont revenus après un an d'interruption pour soucis budgétaires. Et ces prix Maeterlinck de la critique ont honoré toute une série de spectacles et d'artistes de la saison 2024-2025. Des spectacles dont on vous a parlé. On va passer en revue rapidement le palmarès et vous dire où vous pourrez revoir et quand vous pourrez revoir ces spectacles. Alors, on va commencer évidemment par la catégorie meilleur spectacle qui a sacré le spectacle Hamlet de Christophe Sermet. Alors, on rappelle, c'est vraiment, on pourrait peut-être presque dire une retraduction, une relecture du Hamlet de Shakespeare. Ça reste Shakespeare, mais porté par une distribution véritablement 5 étoiles qui nous fait entendre la langue presque différemment, met l'accent sur d'autres aspects et dans une mise en scène assez étourdissante, dans une boîte presque blanche au milieu d'un plateau gigantesque noir. C'était la grande salle du Théâtre National et qui va exploser à la fois ce blanc, mais aussi le rouge, puisqu'on sait que c'est assez sanglant.
C'est quand même Shakespeare.
Voilà. Alors, c'est un spectacle qu'on pourra revoir, mais il faudra là aussi patienter parce que ce spectacle sera repris en 2027 au Théâtre National et aussi du côté Théâtre de Liège.
Voilà. Allez, on ne se décourage pas, c'est demain.
Autre spectacle primé, mise en scène, c'est l'autre projet de Laure Lapelle, spectacle que l'on a pu voir dans le cadre d'un focus sur les espaces urbains au Théâtre Océan Nord. L'autre projet, c'est une mise en scène tout à fait singulière où on nous invité à une sorte de commission urbanistique pour aménager un parc où tout le monde peut donner son avis et on va construire sous la direction ou en tout cas avec la complicité de deux comédiens qui sont là urbanistes également un espace commun finalement mais qui va cacher quelque chose et quelques...
Donc c'est de la démocratie appliquée.
De la démocratie et aussi les travers de la participation citoyenne ou les détournements de la participation citoyenne. C'est super intéressant. Là, pour le moment, par contre, pas de date de reprise et on connaît la difficulté, difficultés que rencontre le Théâtre Océan Nord.
Donc peut-être un prix qui tombe à pic.
Voilà. Le spectacle de cirque Armour d'Arnaud Ferreira et Gilles Paulet, vu au hall de Scarbet qui est créé là-bas. Un spectacle qui propose un trio masculin sur scène pour réinventer, pour se réapproprier les codes de la virilité, de la masculinité, surtout les déconstruire dans un spectacle de corps à corps. Alors, c'est entre de la danse et du cirque. Quand on demande à Arnaud Ferreira pourquoi on vous qualifierait de cirque et pas de danse, il dit moi, j'ai pas envie d'étiquette forcément, mais il y a peut-être par rapport à la danse, il y a aussi un aspect plus performance physique avec des portées, etc., qui amène un peu plus vers le cirque. Et ce spectacle avait été présenté dans le cadre d'un festival de cirque. Voilà, donc ça s'appelle Armour et ça, il faudra attendre début 2026 pour une reprise également. Qu'est-ce que je peux vous citer encore?
Alors, un prix comédien-comédienne.
Voilà, Julie de Roisin remporte le prix de l'interprète. Et c'est au terme d'une saison pour elle qui a marié les extrêmes puisqu'elle s'est retrouvée au TTO dans la peau de Florence Foster Jeskin, c'est cette aristocrate
qui chante faux,
qui voulait absolument être cantatrice. Et là, elle est dans un duo avec Achille Ridolfi sous la direction d'Emmanuel Delerba. Alors, ce spectacle tourne un petit peu en Wallonie, mais on espère une reprise dans les saisons prochaines au TTO également. Et pourquoi extrême? Parce que de l'autre côté, Julie de Roisin avait intégré une version androïde des trois sœurs de Tchekhov. Mais le spectacle d'Oriza Hirata, mis en scène par Yasmina Douyeb au Varia, où elle jouait celle des trois sœurs qui arrondit le plus des angles, qui essaye de sauver les meubles de cette famille aussi en pleine... je ne vais pas dire décadence, mais en tout cas qui... Voilà, comme tu dis, c'est Tchekhov.
Mais c'est aussi Julie Desroisins, on la connaît depuis longtemps. Elle a un fameux talent, entre autres, comique, et c'est chouette qu'elle soit récompensée.
Et enfin, encore un autre spectacle qu'on pourra voir, c'est Rire pour en finir avec soi-même, de Sarah Selma Dolores, qui a remporté le prix auteur-autrice. Mm-hmm. Un spectacle qui parle du rire, mais surtout de la question cruciale, de quoi peut-on rire et avec qui aujourd'hui ? Existe-t-il un rire de droite ? Bref, une réflexion très drôle, mais aussi très profonde sur toutes ces questions qui nous ramènent dans notre société actuelle et dans ces débats vraiment contemporains. Beaucoup de questions. Je ne vais pas dire qu'il y a beaucoup de réponses, mais ce n'est pas ça le principal. C'est surtout de se poser des questions et de se faire peut-être ses propres réponses.
Voilà, proposition du théâtre habituel. Hein.
Voilà, donc ce spectacle va aussi tourner et revient au Varia tout à fait prochainement. Là. Rire pour en finir avec soi-même. Voilà pour ce petit point sur les prix Maeterlinck. Merci d'avoir suivi la conspiration des planches. Merci Elisabeth.
Et on se retrouve tout bientôt.
Tout bientôt. Allez, à très vite.
Allez, bonne planche.
Au revoir.
Au revoir, merci Nico.